L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Amen. Gloire à Dieu. On va juste maintenant pencher nos têtes et puis on va remettre ce temps au Seigneur où on va aller dans la parole de Dieu. Amen. Oui, Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, ce matin. On te remercie pour le privilège que nous avons d'être rassemblés ici en ton nom. On te remercie pour ta sainte parole. On te remercie également pour ton Saint-Esprit. Ton Esprit qui est là pour nous enseigner, pour nous parler individuellement. Même si nous sommes toutes des personnes différentes, Seigneur, tu as un message à communiquer à chacun d'entre nous. On veut te remercier, Seigneur Dieu. On te remercie à l'avance pour les choses que tu vas nous enseigner, que tu vas nous révéler pour qu'on puisse avancer avec toi. On a prié au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais vous inviter, venez avec moi dans Romains chapitre 15 et le verset 13. Romains chapitre 15 et le verset 13. La semaine passée, nous avons commencé une série qui s'intitule « Toujours de l'espoir ». Avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Et le peuple de Dieu dit « Amen ». Vous croyez ça ce matin? Avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. On a vu des principes importants la semaine passée, puis cette semaine, on va revoir certaines choses, et puis après, on va poursuivre dans le thème. Dans Romains chapitre 15 et le verset 13, il est écrit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Et juste en lisant ce verset-là, je sens la présence de Dieu sur moi. Il y a des gens ici ce matin qui ont besoin d'être remplis de joie et d'espoir en Jésus. Amen. Peut-être on a des amis ce matin sur Internet, peut-être à la radio, des personnes qui ont besoin d'une touche de Dieu. Bien, gloire à Dieu, Jésus n'a pas pris sa retraite, Jésus est disponible et le Saint-Esprit est ici ce matin pour vous rencontrer, pour vous toucher. Parce qu'on a un Dieu merveilleux. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu merveilleux. Et des fois, on prend ça pour acquis. On peut dire souvent « Dieu est bon ». Mais vous savez, oui, Dieu est bon. Mais si on compare dans les religions du monde, dans d'autres religions, on pourrait voir les gens vont parler d'un Dieu méchant, un Dieu en colère, un Dieu rempli de haine, où on ne parle pas de l'amour de Dieu. Mais dans la parole de Dieu, nous retrouvons un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aime avec un amour éternel. Et quand on s'arrête et on découvre notre Dieu nous aime, en fait, Dieu est amour. C'est merveilleux de savoir que Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous connaissons, c'est un Dieu d'amour et Dieu m'aime tel que je suis. Dieu m'aime tel que je suis, même si je restais toujours pareil, avec tous mes défauts, Dieu m'aime tel que je suis. Ça, c'est merveilleux, le savoir. Je n'ai pas besoin de changer pour que Dieu m'aime. Mais comme j'ai déjà dit dans le passé, Dieu m'aime trop pour me laisser comme ça. Dieu m'aime beaucoup trop pour me laisser dans mon état présentement. Donc, Dieu va toujours me parler, me révéler des choses pour que je puisse être transformé, pour que je puisse expérimenter vraiment ce que Dieu en réserve pour ma vie. Dieu a des bons plans, des projets de paix et non de malheur pour ma vie. Donc, j'ai besoin de connaître mon Dieu. Et la première chose qu'on vient de voir ce matin, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix. Avez-vous besoin de la paix de Dieu ce matin? Bien, la paix de Dieu est disponible ce matin pour vous. Comment ça nous dit? Dans la foi, pour que vous abondiez en espérance. Ici, on ne parle pas juste un petit peu d'espoir, mais ça nous parle de l'abondance. En Dieu, il y a beaucoup d'espoir. C'est pour ça qu'on peut dire, avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours, et non seulement un peu d'espoir, mais il y a beaucoup d'espoir. Parce que notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est grand et merveilleux. Lorsque Jésus marchait sur la terre, on sait qu'il allait de lieu en lieu et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable parce que Dieu était avec lui. On connaît le cœur de Dieu pour nous. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il veut nous restaurer, il veut nous guérir, il veut nous délivrer. En fait, il a déjà tout accompli à la croix. Et aujourd'hui, la seule chose qu'on a besoin de faire, c'est de recevoir l'œuvre de la croix par révélation. On reçoit spirituellement et après, on peut l'expérimenter dans le naturel. Gloire à Dieu! Que le Dieu de l'espérance vous remplisse. Acceptez-vous aujourd'hui d'être rempli de toute joie et de toute paix. Ah, moi, je l'accepte. Dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ici ce matin pour vous révéler des choses. Et vous savez, nous connaissons le Saint-Esprit, un esprit de grâce, un esprit d'amour, parce que Dieu est amour. Donc, le Saint-Esprit est un esprit merveilleux, l'Esprit de Dieu, parfait. Mais il y a également des mauvais esprits. Et puis, quand on parle du royaume des ténèbres, on parle, par exemple, Satan, lui, c'est l'accusateur des frères. La Bible nous parle l'accusateur des frères. Il cherche à assassiner vos frères et vos sœurs. Il cherche à vous décourager en voyant vos frères et vos sœurs avec des yeux charnels, et des yeux même qui ont une vision inspirée par le royaume des ténèbres. Satan veut vous faire détester vos frères et vos sœurs, et même votre famille immédiate. Satan, c'est un mauvais Dieu, un faux Dieu, rempli de haine. Il est horrible. Mais heureusement, aujourd'hui, le Saint-Esprit est là, et on peut découvrir les dimensions de l'amour de Dieu. Des dimensions de l'amour de Dieu au lieu des dimensions de haine. Si vous regardez les nouvelles de ce temps-ci, vous pouvez voir les gens remplis de haine contre le peuple juif. Avez-vous suivi un peu les nouvelles, l'actualité? Les gens sont dans les rues et puis ils disent « mort aux juifs », remplis de haine, inspirés par Satan. Et puis on pourrait s'imaginer qu'on est en 1940 aujourd'hui à cause des événements qu'on voit. Mais pourquoi les gens sont encore comme ça aujourd'hui, des années plus tard? C'est parce que c'est les mêmes démons qui inspiraient Adolf Hitler. Ces mêmes démons sont encore là aujourd'hui. Et puis ces démons viennent inspirer des gens et puis les animer, les remplir de haine. Et comme on avance dans les temps, on peut voir de plus en plus le royaume de la lumière qui est là et on voit le contraste entre le royaume des ténèbres. On peut voir la lumière de Christ qui resplendit en nous. Et on peut voir également les ténèbres. Mais j'ai aimé le chant que mon épouse nous a conduit dedans ce matin, que la lumière de Dieu chasse les ténèbres. Il peut faire très, très noir, très, très sombre, mais vous allumez juste un petit briquet et tout d'un coup, il y a de la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas venir étouffer ou empêcher la lumière de Dieu. Donc, si je suis rempli d'espoir, parce que je suis rempli de joie, de foi dans le Seigneur, dans le Saint-Esprit, les ténèbres doivent quitter ma vie. Les ténèbres doivent quitter ma vie. Et moi, je trouve ça absolument glorieux de savoir que je peux me présenter devant le Seigneur et de prendre du temps avec lui, baigner dans sa présence et expérimenter le surnaturel, peu importe les choses qu'on peut voir dans le naturel. Gloire à Dieu pour ça. Donc, ça nous parle ici d'un Dieu de l'espoir. Et peut-être aujourd'hui, vous êtes là et vous avez besoin de vivre ce que la Bible nous parle ici, de l'espoir. La semaine passée, on a vu que c'est important pour nous de comprendre l'espoir. Des fois, quand on a entendu les gens dans ce monde parler de l'espoir, on s'est dit, bien, l'espoir, ce n'est pas vraiment important parce que, vous savez, c'est la foi là, qui compte. Certainement, la foi, c'est une chose importante. On doit comprendre les mécanismes de la foi, comme on a déjà enseigné dans le passé. Mais si on parle juste de la foi sans parler de l'espoir, bien on passe à côté d'une chose super importante, parce que dans Hébreux 11, verset 1, il est écrit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Voyez-vous, ou dans King James, ça nous dit, « La foi est la substance des choses qu'on espère. » Donc, on prend toutes les choses qu'on espère et on les met ensemble. Et puis là, finalement, ça, c'est comme la mission de notre foi. Si je n'ai pas d'espoir, ma foi n'a pas de mission, elle ne sait pas où aller. Comprenez-vous? Je peux relâcher ma foi, mais cette foi-là doit avoir des objectifs. Et puis, mes espoirs, c'est vraiment, c'est ça qu'on peut dire dans la parole de Dieu, c'est la substance. Donc ici, la foi est la substance des choses qu'on espère. Donc, comprenez ceci. Vous pouvez être en train de vous nourrir spirituellement par la parole de Dieu. Vous écoutez des enseignements à la maison parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Là, on est là, on se remplit de foi. Mais si l'ennemi vous voit aller, vous êtes là en train de vous remplir de foi, mais là, il arrive et puis il peut attaquer votre espoir. Il sait que votre foi va être neutralisée. Voyez-vous comment le diable est sournois, il est méchant, détestable le diable. Donc, vous êtes là puis vous pensez que vous êtes en train de progresser. Et oui, vous faites les bonnes choses, vous écoutez la parole de Dieu, vous vous laissez imprégner de la parole de Dieu, mais là, Satan vient et puis il essaie de vous faire douter la parole de Dieu. Et puis, il essaie de venir vous voler votre espoir. Et puis, il vous dit, toi, tu ne seras jamais guéri. Tu ne seras jamais libéré financièrement. Dans ton couple, ça n'ira jamais mieux. Ceci, ça va toujours aller mal pour toi. Tu as bien beau écouter les choses, mais pour toi, oublie ça, ça n'arrivera jamais. Et peut-être vous avez déjà entendu ces paroles-là dans vos cœurs ou dans vos pensées plutôt. Mais vous savez, si on réalise que non seulement notre foi est importante, mais en même temps, on doit également comprendre que l'espoir, on doit vraiment chérir notre espoir et comprendre c'est quoi ça l'espoir. Quand on parle de l'espoir, bien, on a vu la semaine passée, on a vu dans Larousse, la définition de l'espoir, c'est attendre avec patience et confiance. Donc, attendre avec confiance. Vous vous rappelez de ça la semaine passée? On a vu attendre avec confiance. Une chose importante, et dans le dictionnaire chrétien, Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology, on a vu, ça veut dire avoir confiance, attendre, désirer, s'attendre à quelque chose. Si on dit, bien moi là, écoute, la Bible dit ça, mais moi je m'attends à rien. Je m'attends à rien. Et puis, je me souviens même quand on faisait un téléthon en Alberta, et puis il y a des gens qui écrivaient, qui disaient, bien moi je fais un don, à l'antenne de TV, mais je ne m'attends pas à rien recevoir de la part de Dieu. Je ne m'attends à rien, moi. Moi, je donne, puis je ne m'attends à rien. Je ne m'attends à rien en retour. Peut-être que vous avez déjà semé comme ça. Vous avez dit. Puis des fois, on s'imagine que c'est une façon humble et une chose qui va vraiment plaire à Dieu, parce qu'on dit, ben là, moi, je donne, puis je ne m'attends à rien en retour. Mais ça, là, en fait, on contredit ce que Dieu a dit, parce que Dieu a dit, donnez, vous recevrez. Amen. Sauf que si Dieu dit vrai, je dois m'attendre à une récolte, n'est-ce pas? Comme on a passé l'offrande aujourd'hui pour les médias, bien moi je m'attends, comme on fait des semences, on va recevoir en retour, qu'est-ce qu'on va recevoir? Des nouvelles caméras. Amen. Une bonne récolte. Et aussi on va avoir des âmes qui vont être sauvées, des gens qui vont être touchés par l'Évangile dans d'autres pays. Gloire à Dieu. Et personnellement, je m'attends à une récolte dans ma vie. Pourquoi? Parce que Dieu le dit. Mais des fois, on est là et on abandonne l'espoir parce qu'on a peur d'être déçu. On a peur d'être déçu. Et comme je me préparais cette semaine, le Saint-Esprit me parlait concernant la peur de la déception. Et c'est ça qu'on va voir ensemble ce matin. En parlant de l'espoir. Il y a des gens qui n'osent plus espérer. Ils sont là et ils disent, j'ose plus espérer parce que j'ai déjà été déçu dans le passé. Et puis, aujourd'hui, on va voir, est-ce qu'on va se laisser voler par Satan, par cette crainte de la déception? Amen. On a vu également la définition de l'espoir selon Andrew Womack, que je vous ai cité la semaine passée, ce qui nous dit l'imagination positive. L'imagination positive, qui est en fait une méditation biblique en images. Combien d'entre vous, vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé du lapin obèse? Vous vous rappelez du lapin obèse? Et qu'est-ce qu'il faisait, le lapin obèse? Il se promenait partout dans ma maison, et puis il détruisait le décor, et puis il se promenait sur les murs, partout. Vous vous rappelez de ça? On vous a donné une image pour comprendre un principe. L'être humain, la façon qu'il est conçu, il va toujours penser en image. Donc, on a vu également que Satan va venir attaquer votre vision pour vous empêcher de rentrer dans votre appel. Vous savez, vous pouvez avoir un appel glorieux. Dieu peut vous appeler à faire quelque chose de grandiose, mais si Satan arrive avec sa vision, et puis vous pouvez être distrait et voir sa vision pour votre vie au lieu de la vision de Dieu, vous allez passer à côté. C'est comme quand je suivais des cours de conduite, il y a plusieurs années, mon professeur me disait, tu vas te diriger là où tu regardes. Donc, quand on apprend à conduire, on conduit comme ça. Et puis, si on regarde toujours à gauche, bien, on va se diriger à gauche. Et c'est comme ça. Si on regarde ailleurs que là où Dieu veut qu'on regarde, si on regarde toujours en arrière, bien, on va s'en aller vers l'arrière. Et vous savez, avec Dieu, on ne peut jamais être sur le neutre. Parce que quand on est sur une montagne, notre vie spirituelle, c'est comme ça. On est en progression. Quand on est sur le neutre, on recule. On recule tout le temps. Donc, Satan veut vous mettre de côté, il veut changer votre vision, il veut vous mettre sur le neutre. Il dit, ben là, pendant un temps, admettons, je ne veux plus servir Dieu. Je ne veux plus louer mon Dieu, je ne veux plus chanter, je ne veux plus prier. Je veux juste attendre que Dieu fasse quelque chose. J'ai rencontré des fois des personnes qui me disaient ça, ben moi, Dieu va falloir qu'il fasse quelque chose là, pour montrer qu'il est là, parce que, écoutez, moi là, j'ai fait des efforts, j'ai été déçu dans le passé, puis on va voir s'il va faire quelque chose. J'ai une grande nouvelle à vous dire, Dieu a déjà fait quelque chose et tout est accompli en Christ. Donc, ne vous mettez pas sur le neutre, mais progressez avec Dieu. Et même si l'ennemi peut venir contre vous, sachez que plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, ce qu'on veut faire, on veut aujourd'hui vraiment croire que notre Dieu d'espoir, le Dieu de l'espérance, c'est le Dieu qui va me donner ma victoire, c'est le même Dieu qui me fait expérimenter la vie chrétienne en abondance, remplie de joie et de foi, comme nous lisons ensemble. On a vu en terminant ma révision de la semaine passée, dans 2 Corinthiens 4, 18, nous avons vu le texte important. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc, on a vu, Dieu nous appelle à avoir sa vision pour notre vie. Et comme on passe du temps avec Dieu dans la prière, Dieu va commencer à nous montrer des choses. Par exemple, notre frère Steve Catudal, je suis certain, le Seigneur était dans l'équation, il était là pour le diriger dans la création de ce livre, si on veut. Donc, c'est sûr, si Dieu nous donne des projets, qu'est-ce qui est merveilleux? Comme on est là, on prie, le Seigneur va nous donner des projets à accomplir pour lui. Et comme on rentre dedans, on est heureux. Parce que, vous savez, on peut avoir un appel sur notre vie, mais si, malgré l'appel, on ne fait rien, on peut même se former à l'Institut biblique, on peut faire plein de choses, mais si Dieu nous appelle et puis on dit, non, moi, je ne veux pas servir Dieu. On ne pourra jamais blâmer Dieu et dire, ben Dieu, tu ne m'as pas fait une place. Dieu, écoutez bien ceci, Dieu, lorsqu'il nous appelle, il va toujours nous donner l'opportunité de le servir. Toujours. Mais là, il y a des choses qui dépendent de nous. Et ce matin, on va voir des choses et ce matin même, vous allez expérimenter une délivrance. Vous allez expérimenter une délivrance du mensonge de l'ennemi. Satan veut dérouter des gens. Écoutez bien ceci. Vous êtes appelés à servir Dieu. Vous avez un appel sur votre vie. Et je peux vous dire avec conviction, parce que nous sommes tous appelés à servir Dieu. Nous sommes tous appelés à servir Dieu. Gloire à Dieu. Donc, j'ai un appel sur ma vie. Vous avez un appel sur votre vie. Il y a des saisons où Dieu va nous travailler. Il y a plein de choses que Dieu va travailler dans nos vies pour qu'on puisse entrer dans le service pleinement. Mais il y a des choses en même temps où on doit apprendre à discerner la voix de Dieu et celle de l'ennemi qui veut nous dérouter. Et ce matin, on va voir pour les personnes qui sont là, qui sont peut-être déçues. Peut-être que vous avez eu des déceptions dans votre passé et vous dites, je n'ose plus croire, je n'ose plus relâcher ma foi ou même espérer parce que j'ai été déçu dans le passé. Aujourd'hui, on va adresser cette chose-là. L'Esprit de Dieu veut vous délivrer de cette peur d'espérer. Amen. Êtes-vous prêts? Aujourd'hui, vous pouvez dire, moi, là, je vais espérer. Et je vais non seulement espérer, je vais exercer ma foi et je vais vivre ce que Dieu en réserve pour moi. Je vais vous mettre en garde. Satan ne veut pas que vous receviez ce message-là aujourd'hui. Mais croyez-vous que Dieu veut que vous puissiez être rempli de foi et d'espérance? Dieu veut me remplir de foi. Dieu veut me remplir d'espoir. Et ce matin, je vais recevoir au nom de Jésus. Venez avec moi dans 2 Rois chapitre 4 et le verset 8 à 17. Moi, là, mon cœur, c'est que chaque personne qui rentre dans cette église, que chaque personne qu'on a le privilège de côtoyer, que chaque personne puisse expérimenter pleinement son appel et rentrer dans son appel pleinement. Alléluia. Ça, c'est mon cœur. C'est le cœur de cette maison. Que personne ici qui va passer à côté de ce que Dieu les appelle à faire. Alléluia, gloire à Dieu. 2 Rois, chapitre 4, verset 8. Je vais vous lire dans la Bible du Sommeur. Ici, on va voir l'histoire d'Élisée et la Sunamite. Un jour, Élisée passait par le village de Sunem. Une femme riche insista auprès de lui pour qu'il accepte de prendre un repas chez elle. Dès lors, chaque fois qu'il passait par ce village, il s'arrêtait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Au verset 10, « Nous pourrions lui construire une petite chambre sur le toit et y mettre pour lui un lit, une table, une chaise et une lampe. Il pourrait loger là quand il viendra chez nous. » Donc, on voit cette femme-là, la Tsunamite, qui est une femme qui craignait Dieu, une femme qui voulait honorer l'homme de Dieu. Et puis, elle demande à son mari, « J'aimerais bien se construire une petite chambre pour l'homme de Dieu lorsqu'il vient faire du ministère. » N'est-ce pas louable? C'est un homme, c'est une femme ici plutôt, une femme de Dieu qui veut honorer Dieu en marchant dans l'honneur à ce niveau-là. Et là, au verset 11, « Un jour qu'Élisée repassait à Sunem, il alla donc se retirer dans la petite chambre haute et passa la nuit. » Puis il dit à son serviteur Géasi, « Appelle cette Tsunamite. » Géasi, le serviteur d'Élisée, le prophète, l'appela et il vint se présenter devant lui. Et elle vint se présenter devant lui. Élisée dit à Géasi, son serviteur, « Dis-lui, tu t'es donné beaucoup de peine en faisant tout cela, en parlant de la chambre, tout cela pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? » « Faut-il parler en ta faveur au roi, au chef de l'armée? » Elle répondit, « Non, merci, je suis heureuse au milieu de mon peuple. » Donc, Élisée est reconnaissant ici parce que cette femme tsunamite voulait bénir l'homme de Dieu en lui offrant cette pièce où il pouvait aller se reposer. Et puis là, il dit, « Mais tu as fait tellement cette chose merveilleuse pour nous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi en retour? » Ici, Élisée voulait bénir la tsunamite. Élisée demanda à son serviteur, « Que pourrions-nous faire pour elle? » Géasi répondit, « Hélas, elle n'a pas d'enfant et son mari est âgé. » Donc, la dame, auparavant, avait dit, « Non, il n'y a rien, j'ai pas besoin de rien. Je suis heureux, je suis contenté dans ma petite vie. » Combien d'entre vous, des fois, si Dieu vous envoyait un homme de Dieu pour vous dire, « Dieu m'envoie ici pour vous bénir. » Et puis, combien d'entre vous, vous diriez, « Ben, non. » Moi, écoute, je n'ai pas besoin de rien de plus, je suis bien contenté de comme ça, là. Tout va bien. C'est bien d'être contenté dans le sens, on est reconnaissant pour les choses qu'on a présentement, gloire à Dieu, c'est bien. Mais si Dieu veut nous donner plus dans notre vie, plus d'influence, des promotions, des choses, c'est à nous de dire, oui, Seigneur, je reçois. Amen. Écoutez bien ceci. C'est-à-dire qu'au verset 14, Élisée demanda à son serviteur, « Que pourrions-nous faire pour elle? » Géasi répondit, « Hélas, elle n'a pas d'enfant et son mari est âgé. » Comprenez qu'à l'époque, lorsqu'une femme n'avait pas d'enfant, c'était vraiment une situation honteuse. Elle était remplie de honte, puis peut-être de désespoir, on ne sait pas. Mais c'était vraiment terrible à l'époque, lorsqu'une femme n'avait pas d'enfant. Et puis, en même temps, le mari savait qu'il n'était pas pour avoir d'héritier. Donc, c'est une situation très difficile pour cette femme à l'époque. Et puis, vous savez, même si elle avait ce besoin-là, ce désir, elle n'osa même pas le dire à Dieu. Et on va voir pourquoi. Là, le serviteur a dit au verset 14, Géasi répondit, « Hélas, elle n'a pas d'enfant et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Géasi obéit et vint se présenter sur le pas de la porte. Élisée lui dit, en parlant à la femme, « L'an prochain, à la même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. » Écoutez bien la parole, je répète, « L'an prochain, madame, vous avez béni l'homme de Dieu, et Dieu te dit, l'an prochain, à la même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. » Une parole bénissante, n'est-ce pas? Une parole, c'est son rêve, son espoir de toute sa vie. Elle entend ça. Elle s'écria alors, « Que mon Seigneur, homme de Dieu, ne me donne pas de faux espoirs. » Avez-vous vu sa réaction? « Homme de Dieu, ne me donne pas de faux espoirs. Moi qui suis sa servante. » Cependant, cette femme devint enceinte et l'année suivante, à la même époque, elle donna naissance à un fils exactement comme Élisée le lui avait prédit. Plusieurs d'entre nous, nous sommes dans cette situation comme cette femme, où Dieu vous a donné une parole pour votre vie, où Dieu vous a donné une vision pour votre vie, où Dieu vous a impacté et vous savez que Dieu vous a appelé à faire des choses spécifiques pour votre vie. Et puis, parfois, l'Esprit de Dieu vous parle et puis vous mettez de côté la voix du Saint-Esprit parce que vous dites, « Non, c'est impossible. » peut-être vous êtes là puis vous dites, je n'ose pas espérer. Je ne veux pas avoir un faux espoir pour être déçu. Si je n'ai pas d'espoir, ben, je ne serai pas déçu. C'est vrai. C'est vrai. Si vous vous attendez à rien, vous allez avoir rien. Vous n'allez rien avoir. Vous comprenez? On peut viser rien et c'est garanti, on va l'avoir. Je vise rien dans ma vie. Mais là, vous ne pouvez pas être déçu. C'est sûr, vous n'avez rien eu. Mais le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'espoir. Comment pouvons-nous servir le Dieu de l'espérance sans entretenir des espoirs? Sans chérir le rêve de Dieu pour notre vie? Amen. Dieu vous a donné des rêves. Satan veut que vous disiez non à ce rêve. Ça n'arrivera jamais. Je suis trop petit. Je suis trop grand. Je suis trop maigre ou trop gros. Je suis pas correct. Je suis trop laid, je suis trop beau. Je sens trop bon, je sens trop mauvais. Il y a toujours des raisons pourquoi vous n'êtes pas la personne. C'est quelqu'un d'autre, mais c'est certainement pas moi. Moi, je ne pourrais pas faire ça. Je suis qui, moi? Si Dieu vous appelle à faire quelque chose, il vous qualifie pour le faire. Il vous qualifie. Quand Dieu vous donne une vision, il va vous donner la provision qui va venir avec. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'espoir. Je veux ce matin vous aider à comprendre ceci. Dans votre état présentement, si vous êtes découragé ou dans le désespoir, je veux vous aider à remarquer ce matin que ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie, mais c'est l'œuvre d'un autre esprit. Pouvez-vous le réaliser ce matin? Le Saint-Esprit, c'est le Dieu de l'univers. Le Saint-Esprit, c'est mon Dieu d'amour. Le Dieu d'amour que je sers me remplit de joie et de paix. La joie et la paix, ça fait partie de mon héritage. Être joyeux et dans la paix. Et vous savez, Dieu veut que vous soyez joyeux et heureux et vive dans l'espoir. Cette femme tsunamite qui était là, non, donne-moi pas de faux espoirs. Elle n'a pas dit non, heureusement, ça n'a pas fermé la porte. Elle n'a pas fermé la porte, mais était comme peur d'être déçue, peur d'être déçue. Mais Dieu, le Saint-Esprit, ce matin, nous dit dans cette église, et vous, à vous personnellement, n'ayez pas crainte d'être déçu. Placez votre foi, pas en vous-même, mais placez votre foi en Dieu et votre espoir en Dieu. Si vous placez votre espoir en Dieu, dans le Dieu de la Bible, vous ne pouvez être jamais déçu. Quand on place nos espoirs en quelqu'un, là on peut être déçu. Parce que les hommes, les êtres humains vont toujours nous décevoir. Les êtres humains, je le répète, vont toujours vous décevoir. Alléluia. Savez-vous pourquoi les êtres humains sont imparfaits? Grande révélation pour vous ce matin. Les êtres humains sont imparfaits. Ce matin, à EVQ, j'ai appris, les êtres humains sont imparfaits. Les êtres humains également, sont limités dans leur connaissance, sont limités. Chaque personne est à la recherche de Dieu. Donc, les gens vont nous décevoir. Mais si on comprend que Dieu est ma source, de promotion, de provision, de délivrance. Dieu est ma source. Je ne peux pas être déçu en Dieu. Écoutez bien, ça a besoin de descendre. Je ne serai plus jamais déçu parce que je ne place pas ma foi dans des gens, je place ma foi en Dieu. Je place ma foi dans le Dieu qui ne peut pas chuter, qui ne peut pas tomber, qui ne peut pas me tromper. Et la façon que je peux avoir une assurance, c'est lorsque je prends la parole de Dieu. Et je découvre la parole, la vérité, et je laisse le Seigneur, l'Esprit de Dieu, me révéler sa parole. Et comme on expliquait la semaine passée, je médite sur la parole de Dieu, et Dieu me donne des images de sa parole. Cette parole devient vivante dans mon cœur, et je commence à voir la destinée pour ma vie. Et peu importe les choses qui peuvent arriver, même si vous êtes la seule personne qui croit dans votre vision, même s'il y a plein de gens autour de vous qui sont tous négatifs, puis ils vous disent... Jamais de la vie pour toi. Jamais, tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez fin, tu n'es pas assez beau. Ils vous disent ça, admettons. Tu rêves en couleur. Je l'ai dit souvent ici, je suis coupable. Je rêve en couleur. Ça ne coûte pas plus cher qu'en noir et blanc. Amen. Rêvez les rêves de Dieu pour votre vie. Laissez le Saint-Esprit vous révéler ses rêves. Et même si vous êtes la seule personne qui croit dans ce rêve-là, le rêve de Dieu, continuez dans l'espoir, marchez dans l'attente et la confiance. C'est ça la clé, l'attente et la confiance, pas en nous-mêmes, la confiance en Dieu qui va l'accomplir. Dieu va l'accomplir dans ma vie, Dieu va l'accomplir dans votre vie. Si vous n'abandonnez pas votre espoir, si vous demeurez dans l'espoir et ensuite vous marchez dans les principes de la foi, où vous relâchez votre foi et le Seigneur commence à transformer des situations. Et après un bout de temps, comme vous marchez dans l'espoir, vous croyez tellement dans la chose que vous voyez avec les yeux de l'esprit que les gens autour de vous vont commencer à croire comme vous. Vous savez, moi, il y a quelque temps, je disais toujours, je suis le chouchou du bon Dieu, vous savez. Et je disais souvent, et je dis encore, je sers un grand Dieu. Je ne m'attends pas à des petites choses parce que j'ai un grand Dieu. Si j'ai un grand Dieu, Dieu va faire des grandes choses dans ma vie. L'Esprit de Dieu, ce matin, vous dit, ne limitez pas Dieu dans votre vie. Ne limitez pas Dieu par les choses que vous voyez ou les choses que vous avez vues dans votre passé. Ne laissez pas le passé déterminer ce que vous allez vivre demain. Ne limitez pas Dieu. C'est que Dieu, il va vous révéler des choses. Vous allez voir des choses. Et quand on croit que Dieu est grand, on s'attend à des grandes choses. Vous savez, même dans les petites choses de la vie, j'arrivais au restaurant. Le stationnement est totalement plein à craquer. Mais quand moi j'arrive, j'ai le stationnement en face de la porte. Puis là, il y avait des gens qui disaient, « Ouais, c'est toi le chouchou du bon Dieu, hein? » J'ai dit, « Exactement. » Et je le crois. Et c'est pour vous également. Vous avez dit, « Ben, un stationnement, c'est pas la fin du monde. » Non, mais c'est le fun. C'est le fun. Commencez à voir ce que Dieu voit pour vous. Et ne lâchez pas prise. Amen. Gloire à Dieu. Là, en parlant de l'attente, l'attente avec confiance. On a vu la semaine passée que l'espoir se définit comme attendre avec confiance. Attendre avec confiance. Donc, si Satan veut vous empêcher de rentrer dans votre appel, il va attaquer deux choses, l'attente et la confiance. Amen. Il va vous décourager pour que vous cessiez d'attendre. Comme ça, vous allez dire, ben, regarde, ça n'arrive pas. Je suis tanné d'attendre. Admettons, vous êtes dans un restaurant et puis vous attendez pour un hamburger. Et puis, vous êtes là, mais ça fait longtemps que vous êtes en train d'attendre. Puis vous êtes, oh, ça prend du temps. Et là, vous parlez aux personnes à côté de vous. Hey, ça prend du temps à manger des hamburgers dans ce restaurant-là? Ça prend du temps. Et là, on parle. Eh oui, je trouve que ça prend du temps. Et là, ensemble, ça prend du temps. Et on se met à chialer et ça prend du temps. Et là, on dit, ben ça prend tellement de temps, on va aller s'asseoir. Et là, on va s'asseoir dans notre restaurant. Et là, on est au restaurant, puis on dit, hey, ça prend donc bien du temps, hein? Ça prend du temps dans ce restaurant-là. Et là, ouais, ça prend du temps, je trouve. Ça prend du temps. Puis là, on parle que ça prend du temps. Savez-vous, on ne mangera jamais de hamburger. Révélation. Parce qu'on n'a pas resté au comptoir, devant le comptoir, jusqu'à la livraison du hamburger. Certaines personnes, là, vous êtes en train de recevoir une révélation. Vous allez dire, c'est ça que je vais manger pour dîner. Non, c'est pas ça. Mais, voyez-vous, si j'ai l'espoir d'avoir un hamburger, là, je vais rester là jusqu'à temps que la petite madame elle dise un chausson avec ça. Vous comprenez? Je vais rester là jusqu'à temps que mon hamburger m'arrive sur un plateau. Je demeure là dans l'espoir. Attendre avec confiance. J'attends en ligne. J'attends avec confiance. J'ai confiance que la petite fille va me donner un hamburger. Si je vous donne une illustration très, très simple. Mais pour votre appel et votre destinée, lorsqu'on attend, on attend avec confiance. Et là, on peut être dans la foi comme ça. Parce qu'on est en train d'attendre et on s'attend de recevoir le hamburger ou on s'attend de recevoir notre destinée ou d'entrer pleinement dans notre destinée. Amen. Comprenez mon illustration ici, ce n'est pas pour parler de nourriture, là. Mais on est en train de parler ici. On peut être à côté d'une personne là, en ligne puis juste dire, bon, ça prend du temps. Mais si on cesse d'attendre, on n'arrivera pas à posséder la chose pour laquelle on espère recevoir. Comprenez? Donc, on doit demeurer jusqu'à temps qu'on reçoive ce que Dieu nous a promis. Par exemple, la première journée que vous êtes rentré ici, le Seigneur vous a donné une vision pour votre vie ici, certainement. Dieu vous a donné des rêves. Est-ce que vous avez pleinement vécu ce que vous avez rêvé? Avez-vous saisi le hamburger? Si c'est non, bien, continuez à attendre. Et là, ce qu'on a besoin de faire, on a besoin de voir, Seigneur, quel type d'hamburger tu veux que je mange? Oh, c'est très profond ce matin. Cheeseburger ou avec bacon? Ce que Dieu veut faire, c'est vous donner des précisions dans votre appel. Des fois, votre vision du début peut être transformée par le Saint-Esprit qui va vous montrer votre attente au début. C'était ça, mais j'ai quelque chose de plus glorieux encore. Plus glorieux! Ne limitez pas Dieu. Ne limitez pas Dieu. Amen. Donc, il y a deux types d'espoir dans le monde. Il y a l'espoir humain qui va attendre dans le doute et qui se décourage. L'espoir humain qui attend dans le doute. Comprenez ceci, si on attend dans le doute, on ne peut pas recevoir. Et l'autre type d'espoir, c'est l'espoir divin. Une attente dans la foi. Voyez-vous la différence? Si je suis dans la foi, je vais attendre et je suis dans l'espoir, je suis là, j'attends en ligne pour recevoir mon hamburger. Et puis même, j'ai des gens autour de moi qui disent, et qui chantent même, ça prend du temps, ça prend du temps. Et puis là, ils vont s'asseoir, eux autres, puis ils ont une chorale dans le restaurant, ça prend trop de temps, ça prend trop. Puis là, ils sont tout en train de critiquer, puis là, ils sont tellement irritables parce qu'ils ont faim. Puis là, ils commencent à se bagarrer, puis ils se donnent des coups de poing, puis tout ça. Puis là, ça, c'est terrible la scène. Mais moi, je suis en ligne. Puis ça prend du temps, je sais, ça prend du temps peut-être. Mais je persévère et j'ai confiance que je vais avoir ce que Dieu m'a promis. Donc, je suis dans l'attente avec confiance. Donc, je protège mon espoir, je protège mon attente pour demeurer dans la confiance. Comment est-ce que je vais faire ça? Plein de choses qu'on peut faire. Une des choses, comprendre ceci, l'espoir contaminé par le doute est très dangereux. Votre espoir contaminé par le doute est très dangereux, qui va créer une attente inutile, qui va causer des détours charnels. Écoutez bien ceci, je vais vous relire. L'espoir contaminé par le doute est très dangereux. Je vais vous lire des versets pour vous le prouver. Mais l'espoir contaminé par le doute est très dangereux. Pourquoi? Parce que ça crée une attente additionnelle, inutile, qui est causée en fait par vos détours, par nos détours humains. Comprenez-vous ceci? Écoutez bien, je parle encore d'hamburger. C'est une inspiration divine, ça de l'air. Je suis là, je suis en ligne. Et puis, j'entends dire, ça prend du temps, ça prend du temps. Mais là, on dit, mais chez restaurant Y, là-bas, admettons, les hamburgers sont servis vite comme ça. Et puis là, je m'en vais à l'autre. Mais je prends un détour, puis j'apprends finalement, c'est pas vrai. C'est pas comme ça, en fait, c'est encore plus long. Finalement, là, je retourne au restaurant X. Puis là, après, je suis tout le temps en train de me promener. Là, vous êtes en train d'avoir une illustration d'église. Hein? Les détours humains, c'est ça, c'est comme, je veux quelque chose, je veux le faire arriver. Il faut que ça l'arrive. Et puis, je vais prendre les choses en main pour que ça l'arrive. Avez-vous déjà entendu d'une petite dame qui s'appelle Agar? Avez-vous entendu parler d'un homme, Abraham? Abraham était marié avec Sarah, ou Sarahï. Et puis, il y avait la promesse qu'on a vue la semaine passée. Tu vas devenir le père d'une multitude. Mais là, le monsieur Abraham, il est bien vieux et il est sûrement tanné d'attendre. Très, très vieux. Puis, humainement, ça a l'air que ça prendrait un miracle. Et vous savez, on sert un Dieu des miracles, n'est-ce pas? Amen. Mais là, Sarah lui dit, écoute, Abraham, va-t'en vers ma servante Agar pour accomplir la promesse de Dieu, finalement. Et puis, on sait, Abraham va vers Agar, et puis Agar enfante Ismaël, qui est le père de tous les Arabes dans le monde. Abraham a péché en prenant un détour qui n'était pas appelé de Dieu à faire. Voyez-vous, quand on prend les choses entre nos mains pour accomplir ce que Dieu nous appelle à faire, on prend des détours inutiles qui nous retardent dans notre destinée. C'est une séduction parce qu'on pense, si je prends en main mes choses moi-même tout seul, comprenez? Si je prends en main, là, ça va aller plus vite. mais c'est une séduction parce que c'est un détour qui va prendre plus de temps. C'est ça. Donc, l'espoir contaminé par le doute, c'est très dangereux parce que ça crée une attente inutile et additionnelle créée par nos détours humains. Je vous donne le verset, Proverbe 13, verset 12. Proverbe 13, verset 12. Un espoir différé rend le cœur malade. Mais un désir accompli est un arbre de vie. Je vais vous relire. Un espoir différé rend le cœur malade. Mais un désir accompli est un arbre de vie. Dans King James français, ça dit, l'espérance retardée rend le cœur malade. Qui veut que vous soyez malade dans le cœur? Est-ce que c'est Dieu qui vous retarde? Non! Est-ce que Dieu veut que vous soyez triste en dedans? Non! L'espérance retardée rend le cœur malade, mais quand le souhait arrive, c'est un arbre de vie. C'est ça que Dieu veut pour vous, que votre souhait arrive. Votre souhait arrive. Et dans Parole de vie, ça nous dit, une personne qui attend trop longtemps quelque chose se décourage, mais un désir réalisé est comme un arbre qui donne la vie. Amen! Ah, c'est bon! Dans la version Kant, ça dit, une espérance qui traîne en longueur prolongée est un crève-cœur, un désir satisfait, un arbre de vie. Le retardement inutile de la promesse est causé par le doute, l'espoir qui a emprunté le chemin de la chair. Celui-ci mène au découragement. Là, on peut voir ça et dire, OK, c'est peut-être une réalité. Peut-être Satan veut me lancer un piège ou me faire prendre un détour. Comment, à ce moment-là, arriver à cette place où je demeure toujours dans l'espoir jusqu'à l'accouchement? Comment puis-je vraiment demeurer dans l'appel de Dieu sur ma vie jusqu'à l'accouchement si on dirait que ça prend bien du temps, là? Admettons, je suis en ligne pour le hamburger, tout le monde sont là, puis ils se mettent à chialer à côté de moi, puis ils disent « ça prend trop de temps ». Comment moi, je peux rester là, dans cette chorale de chialeux, puis être la voix positive qui dit « mon Dieu, je vais avoir un hamburger aujourd'hui ». Comment être cette personne? Voulez-vous savoir? Amen. Hébreux 6, 12. L'espoir divin, c'est l'attente dans la foi avec patience. C'est merveilleux. C'est merveilleux parce que Dieu nous a tous appelés à faire quelque chose et Dieu nous a tous appelés à recevoir également de sa main. Recevoir des choses pour son service. Vous savez, il y a quelques semaines, j'ai envoyé un courriel à chaque gradué de l'IBEM. Et puis, j'ai exprimé mon cœur pour les gradués. J'ai dit, vous avez fait une formation d'un an, deux ans. Vous avez reçu une formation et là, je m'attends que vous allez servir Dieu et je veux vous donner des opportunités de service dans la maison de Dieu. Mais venez vers moi et dites-moi ce que vous avez dans votre cœur. Dites-moi ce que vous avez dans votre cœur. C'est certain, des fois, on peut demander aux gens, pouvez-vous faire ceci, cela, parce qu'on a un besoin. Mais moi, ce que j'ai toujours aimé, depuis toujours, dans l'Église, c'est discerner les passions dans le cœur des gens. Quand quelqu'un est passionné pour quelque chose, qu'est-ce qui est merveilleux? C'est que là, je peux voir la passion de la personne et je vois que ça vient de Dieu. Cette passion qui vient du Seigneur, dans la maison de Dieu, fait une explosion de joie dans sa vie, dans la vie de la personne et dans les personnes qu'elle côtoie. Voyez-vous? Mais je peux demander à quelqu'un, comme ce matin, on avait des gens qui ont chanté ce matin avec nous. C'était des gens qui aimaient ça. Je n'ai pas demandé à quelqu'un qui déteste chanter, « Pourrais-tu faire un solo? » OK. Puis là, « Dieu peut tout, Dieu peut tout. » Voyez-vous? La personne n'est pas du tout passionnée, elle déteste ça. Mais là, le pasteur m'a demandé, Dieu peut tout, Dieu peut tout. Il nous arrache les flammes. Comprenez-vous? Là, je dirais, c'est souffrant. C'est souffrant pour la personne, c'est souffrant pour moi, c'est souffrant pour l'ensemble de l'Église. Comprenez-vous? Mais quand la personne est là, elle exprime sa passion. On peut découvrir la passion et évaluer la saison de la personne et dire à cette personne-là, où il y a des gens des fois qui m'ont dit, « Pasteur, j'ai un projet. » Et puis mon cœur, savez-vous, pour les gens de l'Assemblée, mon cœur, c'est de voir la personne entrer dans sa destinée. Jamais je veux retenir une personne. Et j'ai dit une fois à une personne dans mon bureau qui dit, « Voici le projet que j'ai. » Et j'aurais tellement souhaité lui dire, « Alléluia, vas-y, vas-y. » Mais en même temps, ça me disait, « Il y a des éléments manquants ici pour, avant de rentrer dedans. » Mais j'ai dit, « continue dans telle chose et le Seigneur va t'emmener là-dedans. Mais en ce moment, je vois des dangers. Et vous savez, la personne m'a écouté. Hallelujah! Ça l'arrive des fois. Puis la personne a dit, parfait, je vais attendre. Et pas longtemps après, on a vu que Dieu l'avait protégé par ce conseil-là. Que Dieu l'avait protégé et la personne est encore là aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu, en train de progresser de plus en plus dans sa destinée. Mon cœur, c'est jamais de retenir. Mon cœur, c'est de célébrer les passions. Et pourquoi? Parce que ça, c'est le cœur de Dieu pour vous. Dieu ne vous donne pas un rêve pour rêver juste comme ça, des rêves de pizza. Dieu vous donne des rêves pour entrer dedans. Dieu vous donne des rêves, c'est pour rentrer dedans et d'être épanoui. Mais savez-vous une chose que j'ai apprise? On doit savoir comment être heureux sur le chemin où on s'en va. Quand j'étais en Australie, chez ma sœur, je me souviens, quand j'étais à la recherche de la direction de Dieu pour ma vie, j'avais acheté un livre à l'église de Joyce Meyer, « Enjoying where you are on the way to where you are going ». Savoir jouir de la vie là où vous êtes, sur le chemin où vous allez. Et puis, j'ai lu ce livre-là, et puis ça a été vraiment un guide pour ma vie. Savoir, je dois être heureux sur le parcours, à chaque jour, je dois être heureux et remercier le Seigneur pour ce que je vis à chaque jour. Et pas juste dire, un jour, quand je vais être là, je vais être heureux. Non, mais être heureux dans le parcours et dire, merci Seigneur, merci pour ce que je vis en ce moment. Merci pour ceci, merci pour cela. Merci mon Dieu. Et quand on est tous avec cette philosophie-là, on remercie le Seigneur en chemin, ça fait des frères et des sœurs les plus heureux sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, je vous ai invité à venir avec moi dans Hébreux 6, verset 12. Vous ne vous relâchez point et vous ne vous limitez pas, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Voyez-vous, par la foi et la persévérance héritent des promesses. Mais comment pouvons-nous persévérer sans espoir? C'est impossible. On persévère avec l'espoir dans nos cœurs, dans l'attente et la confiance qu'on va vivre la promesse de Dieu. C'est bon ça, n'est-ce pas, de savoir ça? Gloire à Dieu! Puis si vous dites, écoute, moi là, pasteur Joël, c'est bien beau là, mais moi je ne suis pas capable de faire ce que tu dis. Je ne suis pas capable! Bon, si vous dites ça, est-ce que je peux vous contredire? Alléluia! Galates 5, 22 nous dit, le fruit de l'esprit, si vous êtes un enfant de Dieu, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience. Fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. La patience. Vous êtes capable. Pourquoi? Parce que dans Ésaïe 40, verset 31, venez avec moi. Je vais essayer de terminer. Je n'ai pas fini, mais je vais essayer de terminer là, parce que ça va être trop long. Ésaïe 40, verset 31. Venez avec moi, qu'on entende les pages des Bibles tourner. C'est une promesse que vous avez besoin d'entendre. Ésaïe 40, 31. Ceux qui attendent auprès, ou après le Seigneur plutôt, ceux qui attendent après le Seigneur renouvellent leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme les aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront, ils ne défailleront pas. Voyez-vous la clé? Ceux qui attendent après le Seigneur. Ceux qui attendent après le Seigneur. Et dans Colombe, version Colombe, ça dit, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Si on est fatigué, on a besoin de mettre nos yeux encore sur le Seigneur. Puis dit, mon espoir est en toi, Seigneur. Mon espoir est en toi. Et en terminant, je vais vous donner ça rapidement. Vous êtes toujours là ce matin, vous ne dormez pas encore. Je vais vous dire pourquoi l'attente est nécessaire. Pourquoi vous êtes là puis vous dites, OK, je comprends ça, mais je n'aime pas ça, attendre. Combien d'entre vous, sans lever la main, vous avez dit, mais moi, je trippe quand j'attends, là. Quand je suis en ligne, surtout quand la ligne est super longue. Quand je suis à l'épicerie, là, est plus longue que cette ligne-là, j'embarque dans celle-là. J'aime ça. On n'est pas comme ça, n'est-ce pas? On n'aime pas ça, attendre. Les êtres humains n'aiment pas ça. C'est pour ça qu'on a des micro-ondes. Pip, 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 pip. Puis là, c'est rendu, hey, une minute. Hey, ça va-tu sortir, ça va là? On est comme ça, surtout en Amérique du Nord. Pourquoi l'attente divine est nécessaire? Comprenez, il y a l'attente causée par nos détours. Puis là, ça nous rend le cœur malade. La Bible est contre ça. Mais l'attente divine, Écoutez bien ceci, est nécessaire. Pourquoi? De un, parce que j'ai besoin que Dieu travaille mon caractère. Première chose, dans ma vie, moi j'ai eu besoin que Dieu travaille mon caractère. Savez-vous que Dieu n'a pas terminé à travailler mon caractère? Alléluia! Oh, j'ai plein d'opportunités. Oh, je vous donne une petite histoire rapidement. J'étais dans l'hôtellerie pendant 6 ans. J'ai travaillé dans l'hôtellerie. Et puis, j'étais un serviteur dans l'hôtel. Et j'avais une patronne. Une patronne pas toujours très gentille. Bonjour, madame, si vous m'écoutez. Non, elle ne m'écoute pas. Ben, peut-être un jour, mais peut-être Dieu va la sauver, puis elle va devenir fine. Mais ça pour vous dire, elle, là, j'étais dans un meeting. Et puis là, je suis allé la voir parce que j'avais fait 3 heures de mon shift de 8 heures. Et puis là, il me restait une nappe à changer quand un party était pour terminer. Puis je me suis dit, attendre 6 heures de temps pour changer une nappe, moi, je juge que ça ne vaut pas la peine de rester ici 6 heures puis attendre pour changer une nappe. Vous comprenez? Je suis allé voir la dame. J'ai dit, écoute, je me demande, est-ce que tu es certaine que tu veux que je reste jusqu'à 11 heures ou minuit ce soir pour changer la nappe? Est-ce que tu es certaine? Puis là, elle me dit, certaine? Non. Convaincu. Moi, je me lève, ferme la porte, et là, je marche, tout rempli de « et pas finale. Et là, l'Esprit de Dieu m'arrête dans le passage, « va te repentir ». Puis je dis « arrière-de-moi, Satan ». Et l'Esprit de Dieu me dit « va te repentir, t'as manqué de respect envers ton autorité ». Ouais, mais Seigneur, il est comme ci, puis comme ça, puis Seigneur, il s'en fout, lui, des détails. « T'as manqué de respect, va demander pardon. » Là, je dis, « Seigneur, ça ne tente pas être tellement... » « Va demander pardon. » Je retourne. Je dis, « Excusez. » Elle dit, « Oui, je veux te demander pardon. » Parce que je t'ai... Elle dit, « Oui, pourquoi? » Je dis, « Parce que je t'ai manqué de respect, puis tu es mon autorité, puis je dois te respecter, puis je te demande pardon, la façon que j'ai quitté ton bureau. » Puis elle dit, « T'es un chrétien, toi. » J'ai dit, « Oui. » Elle dit, « Moi, j'ai été élevée chrétienne. J'allais à l'école du dimanche quand j'étais petit. » Plus tard, on m'a offert un poste de maître d'hôtel que je ne voulais pas parce que j'étais dans le ministère les fins de semaine, que je ne pouvais pas prendre. Mais vous savez, Dieu a travaillé mon caractère. Ça, c'est une des choses. Donc, l'attente, c'est une chose positive, comprenez-vous? Parce que Dieu a travaillé des affaires en moi. Parce qu'imaginez si Dieu ne m'avait pas travaillé comme ça, puis j'étais encore de même aujourd'hui avec vous. Ce ne serait pas drôle. Dans Jacques 4, 10, ça dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Amen. Je termine dans quelques minutes. J'ai quasiment terminé. Aussi, l'attente divine est nécessaire parce que j'ai eu besoin d'acquérir l'expérience de la vie. Des fois, là, on dit « ben, je suis prêt à faire ça, je suis prêt. » Comme j'ai consulté quelqu'un dans mon bureau l'autre jour, j'ai dit « Je sais, ton cœur est prêt, mais il y a des choses qu'il faut que tu apprennes avant. » Puis vous savez, une des choses... Quand je suis arrivé à l'antenne de TV en Alberta, on m'a donné une responsabilité et mon budget pour organiser l'expo en Californie, là-bas, ils m'ont dit, OK, on te donne un budget de 100 000 $. Ça, c'était le premier contrat qu'on me donnait là-bas, là, première responsabilité. Et puis là, on se dit, mais pourquoi j'avais besoin de faire ça? En plus, vous savez, faire de la paperasse avec le gouvernement, combien d'entre vous, vous aimez ça, remplir des documents du gouvernement? C'est fun, hein? Puis j'avais une brique, ça de grosse, pour me dire comment remplir les documents. Oh, c'était encore plus le fun, ça, là. Mais là, j'avais 100 000 $ à gérer. On me donne ça. Voilà, tu as besoin de faire ça. Voici le livre pour te dire comment remplir les papiers que tu vas triper dessus, là. Puis là, mais là, on se dit, pourquoi Dieu me fait vivre ça? Parce que plus tard, il savait que j'étais pour ouvrir une église, qu'on aurait de la paperasse constamment, des choses qu'on aime beaucoup, beaucoup. Alléluia, gouvernement. Mais, Dieu voulait que j'apprenne des choses. Aussi, il y avait 65 employés. 65 employés avec des personnalités différentes. Hallelujah! Est-ce que ça se peut que Dieu voulait que je sois frotté par des personnes de papier sablé et d'autres papier sablé et d'autres pour me raffiner? Imaginez, si vous me dites aujourd'hui, ah, il est bien fin, lui. Mais peut-être j'étais moins fin avant. Peut-être j'ai été comme chut, chut. Puis les petits coins, un petit moins, c'est ça, un petit peu piquant, ils sont disparus. Mais le processus, en terminant, j'ai eu besoin d'attendre la promotion divine. Savoir servir dans la vision d'un autre avant d'entrer dans ma propre vision. Des fois, je suis comme, hey, moi, j'aimerais ça faire ça, moi, c'est ça que je vois. Mais Dieu me dit, ah, c'est bien beau, toi, tu vois ça, mais tu vas servir la vision d'un autre. Et j'avais un livre à cœur. J'ai dit au président de l'antenne de TV, j'ai dit, hey, j'aurais à cœur d'écrire plein de petits livrets pour les partenaires à travers le Canada qui vont être sauvés. On va leur donner plein de petits livres pour les aider à comprendre c'est quoi la vie chrétienne, genre le disciple victorieux. Il dit, ah, c'est génial comme idée. Tu vas l'écrire et mon nom va être sur la pochette, la couverture. Oh, c'est fun de faire ça, n'est-ce pas? Donc, savoir servir dans la vision d'un autre avant d'entrer dans sa propre vision, qui est la vision de Dieu pour sa vie. Savoir appuyer avec fidélité des supérieurs. Je me souviens, quand j'étais là-bas, on m'avait offert une position dans une autre station de télévision et avec un autre salaire. Et là, Dieu m'éprouvait, est-ce que tu vas dire oui à ma voix, à mon appel, là où je t'ai dit d'aller, ou l'argent et manquer de loyauté envers les personnes qui t'ont engagé, qui t'ont aimé. Où est ta loyauté? Dieu m'a éprouvé là-dessus aussi. Il y a plein de choses où Dieu nous éprouve. Parce qu'on peut dire, ben, voilà, mettons 6 ans, j'étais capable, ou voilà 10 ans, j'étais capable de prêcher. Pourquoi Dieu prend des étapes comme ça? Parce que malheureusement, on est imparfait, puis Dieu a besoin de nous travailler. Dieu a besoin de me travailler, Dieu a besoin de vous travailler. Donc, dans le processus, si on dit, ben moi, je veux juste la promotion, mais si vous rejetez le processus de la promotion, vous n'arriverez jamais à vivre la promotion. Comprenez-vous, frères et sœurs? Ce matin, mon cœur pour vous, comprenez, il y a de l'espoir en Dieu. Il y a toujours de l'espoir en Dieu, mais la grande partie de ma percée dépend de moi. Dépend, est-ce que je me laisse façonner par Dieu? Est-ce que je suis dans cette relation avec Dieu ou je demeure dans la ligne, dans le restaurant? Jusqu'à temps que je reçoive mon hamburger, où est-ce que je vais aller manger de la poutine? Ailleurs. J'ai besoin d'acquérir également la sagesse de Dieu. Comment résoudre un problème? Comment entendre sa voix? Plein de choses que le Seigneur va nous travailler. Dans le psaume 71, verset 14, le psalmiste dit, « Moi, j'espérerai toujours et je te louerai de plus en plus. Je te louerai de plus en plus. J'espérerai toujours en mon Dieu. » Aujourd'hui, peut-être c'est la maladie, peut-être c'est les finances, peut-être le diable dit, ça ne vaut pas la peine, cesse d'espérer, abandonne, cesse d'être dans cette confiance, cesse d'attendre, ça ne vaut pas la peine. Peut-être Satan vous dit ça aujourd'hui, mais Dieu vous dit, poursuivez dans la vision que je vous ai donnée, demeurez dans la ligne et vous recevrez ce que je vous ai promis, demeurez dans la vision que je vous ai donnée. Amen. Savez-vous, en terminant, Dieu a besoin de votre obéissance. Dieu a besoin de frères et de sœurs qui sont dans sa vision. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de nous, frères et sœurs. Vous pouvez continuer? Bonjour. Savez-vous, si moi je ne suis pas là, si vous n'êtes pas là, et il y a des gens qui ont besoin d'entendre parler de Jésus, qui va leur dire? Qui va prêcher? Qui va aimer? Qui va servir? Qui va chanter? Qui va prier? Qui va exhorter? Dieu a besoin de vous. Qui va consoler et encourager? Dieu a besoin de vous, frères et sœurs. Allez-vous vous détourner de l'appel de Dieu et aller vous asseoir dans le restaurant? Ou allez-vous vous tenir debout? Si vous êtes la seule personne à dire, je vais recevoir ce que Dieu m'a promis. Je vais recevoir ce que Dieu m'a promis. Et je vais être dans l'espoir, dans l'attente, avec confiance, et je recevrai pleinement au nom de Jésus. C'est ma prière. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Alléluia. Merci, Seigneur Dieu. Merci parce que, Seigneur, tu nous aimes tellement. Tu nous aimes tellement que tu nous travailles. Tu nous aimes tellement que tu nous permets d'attendre. Oh, Seigneur Dieu, tu es un Dieu patient envers nous. Tu es patient, Seigneur Dieu. Oh, mais merci, Seigneur Dieu, parce qu'il n'y a pas de détour en toi. Il n'y a pas de détour en toi. Il n'y a pas de détour en toi. Et Seigneur Dieu, s'il y a des frères et des sœurs ici qui ont déjà pris des détours, oh, je prie aujourd'hui que tu puisses leur montrer aujourd'hui même que tu es capable de restaurer ce que l'ennemi a volé. Alléluia, tu es un Dieu de restauration. Tu es un Dieu merveilleux. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous te remercions, Seigneur Dieu. Nous te remercions parce que tu nous remplis d'espoir. Tu nous remplis d'espoir. Tu nous remplis d'espoir. Et de joie et de paix. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Tu nous remplis d'espoir. Oh, tu nous donnes ta vision. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu nous donnes la vision ta vision pour nos vies et pour cette maison. Merci parce que, Seigneur, nous voyons cette maison remplie de toi, remplie de frères et de sœurs qui te louent. Nous voyons, Seigneur Dieu, une armée qui se lève, une armée qui se lève dans la moisson. Des personnes prêtes à servir, des personnes prêtes à se donner et servir. Alléluia, gloire à toi, Seigneur Dieu. Nous te louons ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la percée qu'il nous donne? Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh, nous te louons, Seigneur Dieu, ce matin. Tu es digne de louange. Nous te remercions, Seigneur Jésus, parce que tu nous remplis d'espoir. Et ce matin, je veux prier également, maintenant, pour des églises, partout à travers la francophonie, où il y a des gens qui s'endorment spirituellement, qui sont là, qui sont neutralisés. Au nom de Jésus, je déclare sous vos têtes un jour nouveau. Je vous appelle à vous relever au nom de Jésus. Relevez-vous au nom de Jésus. Prenez courage, soyez forts et entrez dans votre appel au nom de Jésus. Alléluia. Oh, nous sommes dans les temps de la fin. On a besoin d'être au service de Dieu. Il n'y a personne en retraite. Personne en retraite. Et tout le monde au service de Dieu. Dans l'espoir, dans la joie, dans l'expectative. Alléluia. Des grandes choses. Oh, et le Seigneur Dieu, aujourd'hui, dit, s'il y en a ici qui ont un manque de pardon dans leur cœur, au nom de Jésus, c'est l'heure de la repentance. L'Esprit de Dieu vous dit, ne laissez pas les pensées de l'ennemi être la domination ou l'entretien de vos pensées. Au nom de Jésus, bannissez toutes les choses qui viennent du royaume des ténèbres. Aujourd'hui, Dieu vous appelle à voir sa vision. Au nom de Jésus, vous avez besoin de voir ce que Dieu voit en ce moment. Refusez d'entretenir les pensées du royaume des ténèbres. Triez, devenez la police au nom de Jésus. Devenez la police de vos pensées au nom de Jésus. Et méditez sur la grandeur de votre Dieu. Voyez et sentez comme l'Éternel est bon. Voyez et sentez comme l'Éternel est bon ce matin pour vous. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.